On va commencer évidemment à parler avec vous de l'astronomie, hein, évidemment, puisque vous avez créé en fait en 1984 l'association Astrochinon. C'est vous-même qui l'avez créée, c'est ça ?
C'est ça. Alors c'est en 1984 que le club d'astronomie de la MJC de Chinon a été créé. C'est devenu une association loi 1901 en 1995 sous le nom de Astronomie en Chinonais. Astrochinon, c'est le nom de domaine du site internet de l'association, je répète, Astronomie en Chinonais.
Ok, et alors du coup, vous, est-ce que, d'ailleurs, on peut parler de ça et on peut dire ça tout de suite, est-ce que, comment vous êtes arrivé finalement à dans ce monde de l'astronomie ? Est-ce que vous étiez déjà un passionné à l'époque de l'astronomie pour créer ça ?
J'étais bien sûr, enfin, pourquoi bien sûr ? J'étais passionné, bien sûr, d'astronomie, puisque ça remonte, vu mon âge, ça remonte dans les années 60. À l'époque, on parlait de conquête spatiale, c'était la course à la Lune, et ça a été un des éléments déclenchants. Et depuis les années 60, donc, je me suis intéressé à l'astronomie et je pratique l'astronomie.
Ok, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ? Qu'est-ce que vous y faites à Astrochinon et parlez-nous un peu de ce que vous proposez dans l'association.
L'association a plusieurs buts, mais parmi eux, c'est déjà de partager l'astronomie comme passion, les connaissances que l'on a, les échanges d'informations, l'observation évidemment.
Ouais.
C'est mettre à disposition du matériel d'observation à l'observatoire, c'est faire de l'observation visuelle, c'est faire des photographies, c'est faire des mesures, bref, il y a de la place pour tout le monde et à tous les niveaux.
Oui, c'est vrai que c'est une discipline aussi qui est pour tout le monde, tout âge confondu aussi, c'est une discipline qui s'adresse à tout le monde.
C'est ça. On peut très bien s'y intéresser, je dirais même du point de vue livresque, tout comme s'y intéresser de manière tout à fait assidue en faisant des observations très suivies. Mais il y a plein d'étapes intermédiaires. Hein. Simplement admirer certains objets dans le ciel, reconnaître le ciel à l'œil nu aussi, ça compte.
Oui.
Faire des photographies, on fait de belles images. Hein, donc non, il y a pratiquement de la place pour tout le monde.
Vous qui avez une longue expérience du coup en astronomie, est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement marquant qui vous a bluffé en tout cas au cours de votre vie, ou l'observation qui vous a impressionné au cours de votre vie ?
Des observations qui nous ont marqué, il y en a eu quand même pas mal. Une des premières, ça a été tout simplement le spectacle de Saturne dans une petite lunette. Le fait de voir cette petite boule avec un anneau autour, c'était vraiment extraordinaire. Et puis bien sûr, il y a eu tout simplement le spectacle de la surface lunaire, les cratères, les mers. Et ça, on n'a pas besoin de pratiquer un grossissement important pour admirer le relief lunaire. Et puis il y a eu d'autres phénomènes. Personnellement, j'ai eu notamment des éclipses totales de soleil. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu aussi les aurores boréales. On en a même vu à Chinon en 1989.
D'accord.
C'est relativement rare. Hein, sous nos latitudes, mais on en a vu. Puis bien sûr, en pratiquant quelques voyages, on assiste à des phénomènes qui sont très ponctuels, comme les éclipses justement.
Oui, qu'est-ce qu'il faut justement pour que des aurores boréales se créent ? Parce que évidemment, on les a souvent dans les pays arctiques proches du pôle Nord. Qu'est-ce qu'il faut pour les avoir, ces choses-là ?
Ça ne dépend pas de l'homme.
Eh oui.
Ça dépend d'une étoile qui s'appelle le Soleil, et puis aussi de l'activité géomagnétique, mais c'est essentiellement solaire. Le Soleil, c'est donc une étoile qui est située à 150 millions de kilomètres, et qui envoie ce qu'on appelle un vent solaire, c'est un vent de particules, et ce vent vient jusqu'à la Terre, va même au-delà de l'orbite terrestre, vers Mars et encore plus loin. Et ces particules, pour ce qui concerne la Terre, entrent en interaction avec le champ magnétique terrestre, pour faire simple. Et bon, pour faire vraiment très simple, excite les molécules qui sont en haute atmosphère et les rendre lumineuses. Et ça fait ces espèces de draperies, ces fuseaux, ces sortes de colonnes.
De couleur verte, c'est assez vert jaune, orangé aussi.
C'est ça. Ouais. En France, celle qu'on a vue en 89 et quelques années plus tard, il y en a eu très peu, elles étaient plutôt rouges. Alors la coloration dépend de la matière qui a été excitée, selon que c'est de l'oxygène ou de l'azote, enfin bref, on rentre dans les détails. Mais essentiellement dans les pays arctiques et antarctiques, les aurores boréales sont plutôt vertes, oui, effectivement.
Vous avez parlé des éclipses, évidemment, c'est finalement la chose que tout le monde observe, puisqu'on en parle déjà beaucoup quand il y a des éclipses. La dernière, elle remonte à quand ?
Les éclipses de... Alors, il faut distinguer les éclipses de soleil et les éclipses de lune.
Oui.
Les éclipses de lune sont relativement fréquentes. La dernière qui a fait le buzz, vraiment, c'est celle qui a été vue aux États-Unis au mois d'août dernier.
Oui.
On l'a vue très partiellement en France, cette même éclipse, on l'a vue très partiellement. À l'observatoire de Chinon, on a pu l'observer, juste avant le coucher du soleil. Et donc, des éclipses de soleil, les éclipses totales sont assez rares, elles ne sont pas trop fréquentes. Et surtout, la particularité, c'est qu'il faut aller sur des points géographiques bien définis, parce qu'on ne peut pas voir de n'importe où depuis la Terre.
Oui, parce que ça dépend évidemment de la position de la Terre et de la position à laquelle on se trouve sur la Terre aussi, évidemment.
C'est ça. Parce que la pointe du cône d'ombre balaye quelques centaines de kilomètres et se déplace à la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres heure.
Mm-hmm.
En 73, d'ailleurs, il a fallu le Concorde pour suivre l'ombre. Et ce passage de l'ombre sur la Terre est relativement mince et donc impose d'être placé là où il faut. Par exemple, l'éclipse de 99, visible en France, elle était visible sur une bande de quelques centaines de kilomètres de large dans la partie nord de la France.
Oui.
En gros, on va dire très simplement de la Normandie à l'Alsace, à peu près. Hein. Et seulement, on a pu la voir de la France entière, mais du reste de la France, c'était partiel. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le disque entier qui était caché, et par conséquent, on ne pouvait pas voir la couronne, ce qu'on appelle la couronne.
La couronne, vous entendez quoi par couronne, du coup ?
Ah, la couronne, c'est un peu ce qu'on appelle, c'est un peu, entre guillemets, l'atmosphère du soleil.
Okay.
Et pour voir la couronne, il faut vraiment que le disque solaire, ce qu'on appelle la photosphère, la partie la plus brillante du soleil, qui éblouit, qui est même dangereuse à l'observation, qu'elle soit masquée. Et quand elle est bien masquée, en fait, on peut mettre en évidence cette couronne, cette espèce d'atmosphère solaire, qui est à peu près 1 million de fois moins lumineux que la photosphère. Donc il faut vraiment éclipser, c'est comme de le dire, le disque solaire pour faire apparaître cette couronne.
Ok, ça c'est pour la couronne donc du soleil. Et alors en parlant de ça justement, en tout cas en parlant du soleil, le 14 novembre dernier, j'ai vu ça sur votre page Facebook, vous avez observé en tout cas à Chinon un jet de gaz chaud du soleil justement qui a atteint 40 000 km de hauteur.
Oui,
c'est
et
ça.
Encore c'est un petit et encore c'est une petite protubérance.
Ouais, en fait c'est une explosion d'hélium en fait, puisque évidemment le soleil est fait d'hélium. Est-ce que c'est ça vraiment qui a...
C'est le soleil, c'est donc une boule de gaz, on va dire, et la matière obéit à ses champs magnétiques, donc elle s'oriente, cette matière, en quelque sorte. Un peu comme une boussole sur la Terre s'oriente dans l'axe approximativement nord-sud, eh bien, sur le Soleil, il y a un peu des axes comme ça magnétiques, et la matière s'oriente. Lorsqu'il y a des éjections de matière, des éruptions, eh bien, la matière suit ses lignes de force magnétique, et parfois, donc, il y a des éruptions, il y a des éjections de matière bien au-dessus de la chromosphère, et ça donne cette espèce de, entre guillemets, de flamme du Soleil. Hein, qui atteint des tailles, celle de 40 000 km, c'est une petite protubérance.
Ah oui.
Il y en a eu des beaucoup, beaucoup plus volumineuses.
En tout cas, ce n'est pas dangereux pour la Terre, ou en tout cas pas à cette échelle-là.
Ah, à cette échelle-là, non. Mais une éjection de masse coronale, donc une éjection de masse qui part du Soleil, si elle est dirigée vers la Terre, elle peut apporter des perturbations au niveau des communications terrestres, par exemple, voire interagir avec les les satellites artificiels qui sont au-dessus de nos têtes, là.
Oui.
Il peut y avoir même destruction de matériel. En 89, par exemple, il y a eu destruction de matériel électrique dans la région, on va dire, du Québec, le nord des États-Unis, et ça a provoqué une panne générale.
D'accord.
Donc l'activité du Soleil n'est pas tout à fait anodine quand même. Et c'est pour ça que le Soleil est observé par les professionnels et très régulièrement.
Oui, avec attention, parce qu'évidemment, si ça perturbe surtout nos appareils électroniques, on ne va pas se le cacher, beaucoup de choses fonctionnent avec l'électronique sur la Terre, donc ça peut avoir des conséquences. Alors, dans la même veine aussi, la veille d'ailleurs, le 13 novembre, vous avez observé un alignement de planètes, Vénus, Mars et Jupiter, si je ne me trompe pas.
Oui, alors c'est un alignement apparent.
Apparent.
C'est-à-dire que dans le ciel, on les voit à peu près alignés, voilà. Donc, c'est...
Mais est-ce qu'on les voit à l'œil nu, du coup, ou c'est via l'observatoire et via des lunettes spécifiques ou un télescope ?
Non, les alignements comme ça, comme celles dont vous parlez, ça se voit à l'œil nu.
Okay.
On n'a pas besoin de venir à l'observatoire, on n'a pas besoin de télescope pour voir ça. Il suffit de lever les yeux, de savoir quand ça se produit. Il y a des revues d'astronomie, il y a des sites internet d'astronomie. Bon, il y a plein de médias qui annoncent avec plus ou moins d'exactitude ces phénomènes. Et c'est un spectacle naturel. Et donc, par exemple, celui que vous citez, on a l'impression de voir à peu près sur la même ligne ces trois planètes disposées comme ça. Ça a très peu d'intérêt scientifique. Par contre, c'est le côté spectaculaire, c'est beau à voir, ça peut permettre d'essayer de comprendre pour tout un chacun ce qui se passe un peu au-dessus de notre tête.
Vous parlez de spectacle naturel, évidemment, on en a un aussi toutes les nuits, ou en tout cas quasiment quand la météo le permet, évidemment, c'est les étoiles. Est-ce que vous observez aussi les étoiles ? J'imagine que oui, mais surtout les constellations.
Les constellations, ce sont ces figures formées par les étoiles. On les voit, bien sûr. Ça nous sert de repère dans le ciel. Ça forme ces figures. Hein, ça nous permet de nous orienter. Ça nous permet de comment dire, ça nous sert de base quelque part pour retrouver des objets tels que les nébuleuses, galaxies, des choses comme ça, ou situer une planète. Mais ce sont des figures qui occupent une grande dimension dans le ciel. Hein, donc c'est accessible à tout un chacun.
Et il y en aurait environ 88 de constellations. Est-ce que c'est un chiffre qui est toujours d'actualité ou on en a découvert d'autres ?
Alors, les constellations, ce sont ces figures dans le ciel. On a arrêté ce chiffre à 88. Il n'y en aura pas d'autres.
Oui. C'est en 1930 d'ailleurs qu'on a arrêté ce chiffre, c'est si ça. Je ne me trompe pas. C'est assez drôle de se dire qu'il y a 70 ans, évidemment, avec des moyens tout à fait différents, on a pu arrêter à ce chiffre-là.
Non, vous savez, la Grande Ourse, on en parle depuis... la Grande Ourse, c'est une constellation.
Oui.
On en parle depuis l'Antiquité. D'autres constellations, comme Orion, comme la Petite Ourse, comme les Gémeaux, le Lion, tout ça, on en parle depuis l'Antiquité. Ce sont des figures dans le ciel que l'on a hérité des connaissances de l'Antiquité.
Mm-hmm.
Ça n'a rien de... Excusez-moi l'expression, mais ça n'a rien d'extraordinaire.
Oui.
Vous pouvez imaginer vous-même une figure formée par des étoiles. Bon, l'exemple très simple, la Grande Ourse, ça rappelle une casserole. Bon, voilà, il y en a même qui l'appellent la casserole.
Oui, c'est vrai, effectivement.
Mais le vrai nom de cette constellation, qui est un peu plus grand que la casserole elle-même, c'est la Grande Ourse. Et quand on fait l'alignement des différents points, on reconnaît approximativement un grand animal qui s'appelle la Grande Ourse. Et ça a été déterminé par les anciens. Et ça a été conservé. Alors, entre-temps, et selon les peuples, il y a d'autres figures qui ont été imaginées. Du temps du Moyen-Âge, sous l'influence de leur religion, on a plutôt essayé de changer les noms et de donner des conséquences un peu plus religieuses aux figures que l'on donnait dans le ciel. Mais tout ça, ce ne sont que des figures apparentes. Ça n'a rien de catégoriquement scientifique.
Oui, donc voilà aussi pourquoi on a arrêté au chiffre de 88 constellations en 1930. Alors, pour les observer, justement, ces constellations, évidemment, c'est plus facile de nuit, on ne va pas se le cacher. Mais est-ce que la météo, du coup, joue un rôle là-dedans? Parce que sans bonne météo, on ne peut pas vraiment voir les étoiles, si?
Eh bien, non.
Il n'y a pas un stratagème ou un télescope qui peut percer les nuages?
Non, les nuages sont là, ils nous embêtent. Bon, ben voilà, on est contraint de rester chez soi. Oui. Il n'y a pas de télescope pour faire ressortir les étoiles au-dessus des nuages. Il y a d'autres moyens qui sont les moyens radio-astronomiques, mais ça c'est un tout autre domaine, mais c'est plus de l'imagerie, là, c'est autre chose. Mmh. Mais si, autrement dit, pour faire très simple, les radiotélescopes peuvent voir, entre guillemets, parce que c'est pas voir avec les yeux, mais ils peuvent détecter ce qui est au-dessus des nuages, mais ce n'est plus de l'imagerie, là. Hein, c'est un autre type de rayonnement, rayonnement radio. Et c'est complètement autre chose. Mais en visuel, c'est clair. S'il y a des nuages, on ne voit rien.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure, évidemment, de l'observatoire qui est à Chinon. Parlez-nous de ça, parce que déjà, il est au milieu de vignes, c'est ça. Et parlez-nous aussi de l'objet, comment il marche. En tout cas, l'objet, c'est peut-être un peu vulgarisé de dire ça en parlant d'un observatoire. Mais parlez-nous un peu de cette structure.
L'observatoire, c'est ni plus ni moins un bâtiment dans lequel on a installé un télescope. Okay. Vous imaginez, par exemple, un télescope du commerce, on va dire un petit télescope, en général, un petit télescope du commerce. Eh bien, on le range dans un placard, on le range dans une pièce chez soi, on le met dans sa voiture quand on veut sortir et on le transporte dans un champ, enfin, on fait ce qu'on veut, on le déplace. Quand l'instrument est un peu trop volumineux, on ne peut plus le déplacer. Et à ce moment-là, eh ben, on le laisse à demeure. Mais alors, on construit le bâtiment autour et on fait en sorte que le bâtiment ait son toit qui s'ouvre, ou mieux, une coupole qui s'ouvre et qui permet à l'instrument d'être pointé vers le ciel.
Oui, et vous, en l'occurrence, c'est une coupole. En l'occurrence, vous, à Chinon, c'est une coupole, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Avec un toit ouvrant.
Voilà. Et donc, l'instrument est à demeure, et quand on veut observer, on ouvre ce qu'on appelle le cimier, c'est une espèce de fenêtre, en quelque sorte, qui s'ouvre vers le ciel, mm-hmm. et le télescope pointe dans la direction que l'on veut.
Et le télescope, justement, est-ce que c'est quelque chose de très puissant? J'imagine que ce n'est pas un télescope qui s'achète dans tous les commerces, c'est quelque chose de très puissant, non?
Alors, à l'époque, c'est pas un instrument exceptionnel. À l'époque où il a été conçu, il était d'un diamètre très respectable. Fort heureusement, plutôt, les techniques évoluent, les offres commerciales évoluent. Oui. Ce qui était à l'époque un appareil quasi unitaire, donc cet appareil a été fait dans les années 80, on ne trouvait pas des télescopes de 300 partout. Aujourd'hui, même dans le commerce, on trouve des télescopes du même diamètre et en plus mobiles, mm-hmm. alors que le nôtre, on ne peut pas le déplacer. Parce que le marché de l'astronomie a évolué,
oui.
Et on trouve des télescopes encore plus gros que le nôtre. Notre instrument est devenu un instrument assez petit.
D'accord, donc ça c'est effectivement ça évolue en fonction aussi de la technologie. Et chose qui m'a surpris, c'est que vous indiquez sur votre site les coordonnées exactes de l'observatoire, c'est-à-dire avec sa longitude exacte et sa latitude. Est-ce que ce sont des données qui du coup sont importantes dans l'astronomie et dans l'observation en tout cas des étoiles et des phénomènes de l'univers?
Alors, c'est important sur le plan astronomique. Maintenant, pour le simple spectacle, si on veut s'amuser simplement à se régaler, si j'ose dire, c'est pas nécessaire.
Oui, évidemment.
Mais si on veut faire un peu de travail un peu plus pointu, on va dire, un peu plus fouillé, c'est nécessaire. Bon, cela dit, avec l'informatique, maintenant, toutes ces coordonnées-là sont entrées directement. Mais à une époque, on utilisait ces données-là manuellement.
Oui.
ça compliquait un peu les choses. Ça avait son charme aussi. Mais maintenant, avec l'informatique, ça a constitué une avancée extraordinaire. L'informatique a constitué une avancée extraordinaire dans l'astronomie d'amateur, mais même dans l'astronomie en général. Oui. L'informatique et les moyens de communication. Depuis plus de 10 ans, presque 20 ans, les moyens de communication et l'informatique ont bouleversé complètement le domaine de l'astronomie, et non seulement l'astronomie, mais d'autres domaines aussi, mais en imagerie, par exemple, en puissance de calcul, en échange d'informations, bref, ça a été une véritable révolution dans, il y a de ça, à la charnière du 21e siècle.
Oui, et puis vous avez vécu finalement tous ces changements ?
Oh oui. Oui.
J'oserais pas dire que vous êtes vieux, évidemment que non, hein, mais du coup, vous avez cette expérience-là qui fait que vous avez connu finalement tous les âges de l'astronomie, jusqu'à aujourd'hui en tout cas.
Tous les âges, faut peut-être pas exagérer.
Oui, non, mais tous les âges, évidemment, sans remonter à l'évolution, évidemment.
Oui. Alors, pour vous donner un exemple, le nombre d'astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont ces espèces de cailloux, enfin, qui font plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de kilomètres de diamètre. Oui. Bon, ils circulent dans le système solaire. On en connaissait quelques milliers dans les années 70-80. Le chiffre a augmenté tout doucement. Et à l'arrivée de l'informatique et de l'imagerie électronique, quand on fait la courbe, oui. Eh bien, la courbe monte, se redresse brutalement et monte de manière, je dirais, asymptotique. Aujourd'hui, on est rendu, on a dépassé les 700 000 astéroïdes.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça. Quand on fait la courbe d'évolution, c'est phénoménal. Puis il n'y a pas que ça, toutes les autres découvertes. Ce qui fait que les découvertes en astronomie vont en s'accélérant. Et heureusement qu'il y a la puissance informatique pour l'aide au calcul, sinon ce serait impossible. Des gens comme Le Verrier qui calculaient manuellement, c'est plus possible ça maintenant.
Oui, il y a trop de données qui rentrent en jeu et qui sont prises en compte. Est-ce qu'on peut parler maintenant de l'événement que vous organisez le 26 janvier, la Nuit des Étoiles ? C'est d'ailleurs un événement que vous organisez mensuellement, c'est ça ?
C'est ça. Alors, en fait, autour du premier quartier de Lune, on fait en sorte, on propose au public de venir à l'observatoire pour, d'une part, observer à l'œil nu, tout simplement, et découvrir les constellations, montrer que la découverte des constellations se fait de façon assez simple. En quelque sorte, on jalonne le ciel avec des étoiles, on se repère. Et puis il y a des instruments mobiles et il y a également le télescope qui est fixe. Donc on peut d'une part observer à l'œil nu, reconnaître le ciel, et d'autre part observer des objets. Nous on parle facilement d'objets, mais en fait ce sont des astres. Observer des astres, que ce soit des planètes, des nébuleuses, des galaxies, à travers les instruments. Et puis on a également un local dans lequel on a une petite exposition et on peut donner des explications au public, soit parce qu'il peut faire mauvais, à ce moment-là il faut bien recevoir les gens, ou soit en complément des observations visuelles. En tout cas, on est à disposition lors de ces manifestations-là et on essaie de donner le maximum d'explications au public.
Et alors, quel genre de public vous avez ? Est-ce que vous avez aussi des enfants ? Parce que c'est vrai que c'est un domaine qui attire aussi les enfants, et on ne l'a pas précisé, mais l'astronomie, les étoiles, ou en tout cas, moi je parle de mon expérience aussi en tant qu'enfant, quand je l'étais, c'est quelque chose qui est assez présent chez les petits ?
Oui, bien sûr, les enfants sont très curieux, c'est normal.
Oui.
Les enfants et puis les plus grands aussi, il y a des gens qui sont très curieux, qui se posent des questions et qui s'émerveillent de voir ces choses-là. Hein. Il est vrai que quand on réfléchit un petit peu sur notre environnement, ça ne s'arrête pas à un monde à deux dimensions, si j'ose dire, la surface terrestre.
Oui.
Ça va bien au-delà, il suffit de lever les yeux et de se rendre compte que ça se passe à des années-lumière, voire des milliers d'années-lumière, voire des millions d'années-lumière, bref.
Et oui, c'est fascinant. C'est vrai que ces distances et ces notions qui nous dépassent finalement, qui dépassent l'être humain, fascinent aussi. C'est ça aussi la beauté de l'astronomie. Alors justement, à cette nuit des étoiles, on pourra observer, si évidemment la météo le permet, une lune gibbeuse croissante. Alors, je cite votre site internet, une lune gibbeuse croissante trônée dans la constellation du Taureau.
Oui, alors, en fait, c'est que, bon, la personne qui a rédigé le communiqué a été un peu pompeuse, on va dire.
Ah ah. Alors, bah, du coup, expliquez-nous.
Gibbeuse, c'est très simple, une gibbosité, c'est une bosse. La lune sera donc bossue. Vous savez que la lune présente des phases.
Oui, hein, évidemment.
Soit comme un croissant très, très mince, soit un quartier, comme un D, le D majuscule, soit le D, mais avec la barre un peu plus bossue, si vous voulez.
Eh bien, d'accord.
C'est quand la lune est, mais elle n'est encore pas pleine, vous voyez. C'est entre le D et la face pleine, donc elle forme une sorte de bosse. Voilà, bah c'est ça une lune gibbeuse, tout simplement.
Okay.
On dit aussi une lune bossue, voilà.
Très bien.
Alors, dans la constellation du Taureau, c'est parce qu'à ce moment-là, elle sera dans la constellation du Taureau. Faut pas chercher plus loin.
Tout simplement.
Oui.
Et alors, il rajoute, cette personne en tout cas qui a posté ce message, les constellations dominantes de l'hiver, c'est Orion, sa nébuleuse M42, Andromède et sa galaxie M31. Donc en fait, ça voudrait dire qu'en fonction des hivers, certaines galaxies et constellations dominent en fonction de l'année.
Eh bien, c'est qu'en fait, il y a des constellations qui dominent le ciel de saison en saison.
D'accord, ok.
En hiver, effectivement, Orion est une des constellations qui domine le ciel.
C'est-à-dire concrètement, c'est qu'elle se voit plus que les autres ?
C'est ça, elles seront le plus longtemps visibles dans les nuits d'hiver.
Ok.
Alors qu'en été, par exemple, ben Orion, on peut le chercher, on le voit pratiquement pas, sauf à la fin de l'été, on commence à le voir tout à fait à la fin de la nuit, mais sinon, globalement, Orion, on ne le voit pas l'été.
Okay.
Chaque saison a ses constellations de préférence, si j'ose dire. A ses constellations dominantes, voilà.
Alors, à cette soirée aussi, à cette nuit des étoiles, donc, qui aura lieu, je le répète, le 26 janvier, il y aura aussi des bénévoles qui vont expliquer, vous l'avez dit, un peu le fonctionnement de l'association, en tout cas des étoiles, etc. aussi. Vous êtes combien ? Vous avez une équipe de combien dans l'association ?
Eh bien, nous sommes à ce jour 38 adhérents.
Ah oui, 38 adhérents, donc ça fait quand même déjà, ça fait déjà du monde en tout cas pour expliquer les étoiles et leur fonctionnement.
Alors, c'est pas 38 bénévoles, c'est 38
adhérents.
Membres qui payent leur adhésion, ce sont 38 adhérents, voilà. Alors, dans ces 38 personnes, il y a des gens très assidus et il y a des gens qui sont, qui ont une pratique très très... très sommaire, selon les intérêts que trouve telle ou telle personne. Hein, c'est pas un reproche à faire aux uns ou aux autres. C'est que chacun trouve son intérêt à l'approche dans l'activité astronomique. Et il y a des gens qui comment vous dire, qui se régale simplement en levant les yeux, et se régale en regardant le ciel, bon, voilà, puis d'autres vont beaucoup, beaucoup plus loin, vont essayer de fouiller les étoiles, essayer d'expliquer, de faire des photos, de faire des mesures même, et puis il y a des gens qui aiment bien expliquer, alors que d'autres n'aiment pas expliquer, parce que c'est pas leur passion. Il y a des gens on a des membres qui sont de parfaits pédagogues, et d'autres qui ne le sont pas.
Oui. Et alors du coup concrètement, la journée ou plutôt la soirée va commencer à quelle heure le 26 janvier ?
Officiellement
20h30, oui, parce que j'allais dire, il faut pas non plus commencer dès la tombée de la nuit, il faut attendre que les étoiles apparaissent dans le ciel.
On pourrait venir avant, mais bon, nous on a fixé des heures, il faut qu'on prépare la salle, tout ça, enfin qu'on prépare notre matériel, donc on fixe une heure, voilà.
Voilà, 20h30 le 26 janvier. Et j'en profite aussi pour rappeler votre site internet, astrochinon.fr, donc évidemment www.astrochinon.fr pour être complet sur votre site internet, et vous pouvez trouver, en tout cas, nos auditeurs peuvent trouver évidemment toutes les petites informations concernant cette journée, donc cette nuit des étoiles qui aura lieu le 26 janvier et qui vous permettra d'observer les étoiles et une lune gibbeuse. Merci beaucoup en tout cas Maurice Dejean de nous avoir accordé un entretien et nous parler évidemment d'astronomie, un sujet d'ailleurs qui est large hein, et il nous aurait fallu presque plus de temps pour évoquer le sujet en entier.
Certainement, mais c'était avec plaisir.